La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et l'impact du réchauffement climatique sur les océans avec des estimations de plus en plus chaudes, donc aujourd'hui à la une de la science.
Quand on parle des climats, en général on pense tout de suite à l'atmosphère et quand on parle des changements climatiques, à la température de l'atmosphère qui augmente. Mais les principales joueurs dans les systèmes climatiques, c'est l'océan.
Et c'était la voix de l'océanographe Sabine Spech dans un documentaire du CNRS Images. Vendredi, donc, la revue Science mettait au jour les connaissances concernant le réchauffement global des océans, mettait à jour ces connaissances. Et elle estime que le processus est 13% plus rapide que nous le pensions. Pour commenter justement ces résultats, Virginie Thierry, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'IFREMER au laboratoire d'océanographie physique et spatiale de Brest. Et puis dans ce studio, comme tous les lundis avec nous, Hervé Kempf, notre partenaire de Reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Hervé, l'avenir du climat sur Terre se joue surtout dans les océans. C'est ce qu'il faut se rappeler quand on lit à nouveau cette étude?
Oui, absolument. Bien plus que l'atmosphère, c'est l'océan, le système océanique global qui est le grand régulateur du climat. Pourquoi? Eh bien parce que les océans absorbent les excès de CO2, le gaz carbonique, qui est le principal agent de l'accroissement de l'effet de serre. Alors, il en absorbe plus de 90%, c'est beaucoup par rapport à l'atmosphère. Essentiellement par dissolution directe dans l'eau de mer, un petit peu aussi par accumulation du plancton mort au fond des océans. Mais le problème est qu'à la longue, l'océan qui joue une sorte de tampon du réchauffement risque de relâcher cette énergie thermique accumulée. Alors, un point de départ, c'est de bien mesurer cette énergie thermique et ce CO2 enfoui dans l'océan. Depuis 2005, on a maintenant un système précis qui lie 3500 bouées argot réparties à la surface de tous les océans et qui envoie leurs données vers des satellites. Mais que se passait-il avant 2005? C'est ce que des scientifiques se sont posés comme question. Ils ont repris toutes les données entre 1960 et 2005 et ce qui les a conduits à réévaluer le taux de réchauffement de l'océan. C'est pas une très bonne nouvelle. La conclusion, c'est que l'océan se réchauffe 13% plus vite qu'on ne le pensait auparavant. Et le taux de réchauffement est deux fois plus rapide depuis 1992 que ça n'était le cas entre 1960 et 1992.
Axel.
Alors, Virginie Thierry, une nouvelle étude, toujours plus alarmiste. On avait encore besoin de preuves, on avait besoin de reprendre les données anciennes pour comprendre le réchauffement?
Oui, en fait, je pense que déjà dans le contexte où il y a pas mal de personnes qui se posent encore des questions sur la véracité de ce réchauffement, je pense que c'est toujours important qu'il y ait des nouvelles études qui confirment encore et toujours que l'océan se réchauffe. Il se réchauffe peut-être même encore plus rapidement que ce qu'on pensait. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est finalement les comparaisons entre les différentes études. Les chercheurs vont utiliser des méthodes un peu différentes. Donc, c'est les mêmes données, parce que ça, on peut pas les inventer, mais ils vont les combiner de façon différente, suivant des méthodes différentes. Et finalement, c'est la convergence des résultats qui va permettre de vraiment confirmer les résultats et confirmer le réchauffement qui est observé.
Alors ici, les auteurs soulignent que le réchauffement gagne de plus en plus les profondeurs. C'est une source d'inquiétude supplémentaire?
Alors, c'est effectivement déjà c'est déjà important de le mesurer. Donc, inquiétude, oui, parce que voilà, ça peut affecter les couches profondes. Après, c'était inéluctable. On sait très bien que les signaux, ils vont pénétrer dans l'océan et ils vont, avec la circulation océanique, ils vont se propager dans l'intérieur de l'océan et en grande profondeur. Et donc, ce que montre l'étude, c'est que finalement, dans le passé, le signal de réchauffement en profondeur était relativement faible et que là, il s'accélère au cours du temps. Et donc là, on a des observations en fait avec le réseau Argo qui vont jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et ce qui est important aussi pour le futur, c'est de pouvoir mesurer au-delà de 2000 mètres de profondeur. Et on est justement en train de développer des nouveaux flotteurs Argo de nouvelle génération qui vont permettre d'aller jusqu'à 4000 voire 6000 mètres de profondeur. Et donc permettre de vraiment quantifier le réchauffement de ces profondeurs, de ces masses d'eau profondes.
Pourquoi étudier l'océan et son réchauffement est important quand on veut prédire le climat?
Donc déjà, on voit que c'est que l'océan a stocké 93% de l'excès de chaleur reçu par la Terre. Donc ça a nécessairement un impact sur l'océan. En fait, en se réchauffant, l'océan va aussi réchauffer l'atmosphère qui est au-dessus et donc va impacter le climat de la Terre. Mais en même temps, ce réchauffement a des conséquences sur les écosystèmes, a des conséquences sur la capacité de l'océan à stocker du carbone. et notamment du carbone émis par l'homme. Et donc, s'il en stocke moins, il y en aura plus dans l'atmosphère et ça va renforcer l'effet de serre et donc renforcer le réchauffement. Ça a des impacts aussi sur la capacité de l'océan à stocker de l'oxygène. Et on sait que avec le réchauffement, on risque d'avoir moins d'oxygène dans l'océan, donc ce qui peut avoir aussi des impacts sur l'écosystème. Donc, on a besoin de comprendre où va cette chaleur et comment elle va impacter l'océan et tout le système climatique.
Avec EMF. Un des co-auteurs de l'étude, John Abraham, est très alarmiste, si j'ose dire, dans sa présentation de l'étude. Il dit que ce réchauffement des océans va conduire, et il le dit de manière très affirmative, à beaucoup plus d'orages, de typhons. Il cite même des cas d'inondations ou d'ouragans qui ont frappé les États-Unis cette année. Est-ce que cet alarmisme est possible pour un scientifique ?
C'est clair que si, en fait, notamment la génération des ouragans est liée à la température de surface, et donc quand elle dépasse un certain seuil, je crois que c'est 28 degrés de mémoire, quand la température des 50 premiers mètres dans les zones tropicales dépasse donc ces 28 degrés, c'est là qu'on peut avoir génération de cyclones, par exemple. Et donc si la température moyenne des océans se réchauffe, il y a probablement plus de probabilité qu'on dépasse ce seuil de 28 degrés et donc on génère des cyclones. Donc oui, je pense qu'il y a des risques. Après, on ne les connaît pas tous. C'est pour ça qu'il faut aussi améliorer nos modèles pour affiner les risques et les prévisions de réchauffement et d'impact sur la circulation et le climat.
Edgar Morin, dans votre livre, le chapitre Post-humanité, dans lequel justement vous parlez de la dégradation de la biosphère, du réchauffement climatique, lien direct avec la mondialisation de notre société ?
Incontestable, c'est-à-dire ça a un lien. Cette mondialisation est un processus d'industrialisation, de développement économique amplifié, accéléré. Moi, j'ai été alerté au problème écologique en 1969 par un article d'Ehrlich qui s'appelait « La mort de l'océan ». Et c'était pas seulement le réchauffement de l'océan, c'était sa pollution et sa dégradation avec la surpêche. Alors pensez que nous avons l'océan, nous avons l'atmosphère, et notamment dans les villes. Et vous avez aussi les sols avec l'agriculture industrialisée. Vous avez donc un processus de dégradation formidable de tous les côtés. Et on n'en prend pas assez conscience. Voilà le grand problème.
Pour rebondir sur ce que dit Edgar Morin, pardon, Virginie Thierry, on a quand même l'impression que ce qu'on décrit, c'est un énorme cercle vicieux dans lequel il n'y a pas d'issue. Le réchauffement est inévitable.
Ah ben pour l'instant, oui, ben l'issue, je pense que c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, tant qu'on n'en sera pas là, je pense que le réchauffement est inévitable. Et ce qu'il y a, c'est que on va pas pouvoir, même si on stoppait ou si on se maintenait à un seuil, enfin à la quantité actuelle de CO2 dans l'atmosphère, je pense que le réchauffement, lui, va continuer parce qu'il y a une inertie assez forte. L'océan stocke cette chaleur et va relarguer ou va réémettre finalement cette chaleur d'ici plusieurs centaines, voire milliers d'années. Donc ce qu'on fait maintenant aura des impacts pour des années et des années encore devant nous. Donc,
Allez, dernière question très rapidement, Hervé Kempf.
Donald Trump a annoncé qu'il voulait couper de 20% le budget de la NOAA, l'agence de recherche sur les océans. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'étude dont on parle aujourd'hui, vos études ?
Clairement, parce que les Américains sont les premiers contributeurs au réseau Argo, donc ce réseau de flotteurs autonomes qui permet de surveiller justement la température et la salinité des océans. Et donc si les Américains se retirent, si les US se retirent de ce programme-là, on n'aura plus toutes ces données et donc on ne sera plus en mesure de mesurer le réchauffement climatique et certainement ce sera plus facile de dire qu'il n'y en a pas.
Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, Virginie Thierry. Océan et réchauffement climatique, le lien sur reporter.net, Hervé bien sûr.
Dès demain.
Merci beaucoup et Axel, à demain.
Également à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une expérience de tous les extrêmes à venir dans l'ISS. Les scientifiques de la NASA se préparent à mener à bord de la station station spatiale une expérience hors du commun. Ils vont s'approcher au plus près du zéro absolu, moins de 273,15 degrés Celsius, la température la plus froide pouvant être atteinte par la matière. Profitant de la microgravité de la station, ils prévoient donc ces scientifiques de refroidir du gaz contenu dans une chambre à vide, à un tel point que les atomes seront quasiment immobiles. Si tout se passe comme prévu, le système de refroidissement à base de laser permettra de frôler de quelques millionièmes de degrés ce zéro absolu théoriquement inatteignable. Les bébés guillemots se jettent de la falaise avant même de pouvoir voler. Ce drôle de comportement observé depuis longtemps chez cet oiseau marin arctique intriguait depuis longtemps les ornithologues. Pourquoi, alors que ses ailes ne sont pas encore fonctionnelles, le petit guillemot se jette-t-il du haut de son nid pour s'écraser soit dans l'eau, soit sur les rochers? Eh bien, c'est un réflexe de survie, répondent deux chercheurs canadiens. Les guillemots, s'ils survivent à ce premier saut, auront statistiquement plus de chances de passer l'hiver que s'ils attendent dans leur nid la nourriture issue de la pêche de leurs parents. Et puis pour finir, notez que ce lundi commence la semaine du cerveau, organisée chaque année depuis 1990 par la Société des Neurosciences, l'occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants de rencontrer donc le public et de partager avec vous les avancées obtenues. Des ateliers, des conférences, des expos, des spectacles dans toutes les villes, avec le programme qui est à découvrir sur semainedducerveau.fr. Et demain, justement, nous recevrons le neurologue Pierre-Marie Liédot.